Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au balado sortie de zone saison 5, épisode 46, avec les gars de la presse qui sont là, Simon-Olivier Larange. Salut Simon-Olivier.
Salut Jérémy.
Nous avons Richard Labbé. Salut Richard.
Salut Jérémy.
Comment ça va?
Ça va
à chaque fois que je te parle, je suis obligé de faire « All right! » Stéphane White pour le 98.5 FM. Salut Stéphane.
Salut les gars.
Bon, OK messieurs, aujourd'hui, on aura la chance de se parler d'une multitude de sujets. Oui, on va parler du Canadien, ce qui se passe avec ce voyage. C'est une première défaite dans cette séquence de 5 matchs sur la route. On va en parler, mais on va se parler également de la rencontre des directeurs généraux qui ça passe du côté de la Floride. On va jouer au DG, donc nous irons golfer en premier. Oh. Et nous parlerons sérieusement par la suite. On va se parler de la lutte à finir entre Détroit, les Islanders et les Capitals de Washington. Et on va se parler également de Doug Armstrong, qui a été nommé à titre de directeur général pour l'équipe canadienne en vue des prochains Jeux olympiques. Est-ce que Martin Saint-Louis a sa place dans le personnel d'entraîneur? Nous aurons ces conversations et plus encore sur ce balado. Bon, mais débutons avec cette nouvelle du côté du Canadien. David Reinbacher qui fait son entrée officielle dans l'organisation du Canadien. Ça va se faire avec le Rocket de Laval. Ça a été confirmé par Kent Hughes. Simon-Olivier, dans un premier temps, est-ce que tu es surpris qu'on le dirige immédiatement à Laval, qu'on ne l'amène pas comme on a fait avec tous les autres, avec les Sean Farrell de ce monde, les amener avec le Canadien, brûler la première année de contrat et tout ça?
Ben justement, on n'a pas besoin de brûler sa première année de contrat. Fait que ça, c'est sûr que c'est très commode pour le Canadien.
Parce que les autres sont universitaires américains, c'est ça?
Exact, c'est ça. C'est ça. Non, je suis pas surpris parce que il se retrouve, ça sera un contexte, en fait, c'est un contexte toujours difficile pour les joueurs qui arrivent comme ça en fin de saison en faisant le saut directement dans la Ligue nationale, qui arrivent soit des rangs juniors ou des ligues européennes. Souvenons-nous, Sean Farrell, l'année passée, c'est des gars qui arrivent un peu comme des chiens dans un jeu de quilles, puis l'écart est souvent important et peu sont ceux qui connaissent du succès sur le champ. Je pense que Reinbacher, le Canadien, est tellement pas pressé. Il a seulement 19 ans, je pense.
Ouais.
On sait que des fois, les joueurs ont seulement l'âge qu'ils ont longtemps, mais dans son cas,
Dans son cas, il y a vraiment seulement.
C'est ça. Dans son cas, ils ont le luxe du temps. Et surtout que c'est tellement pas un contexte gagnant à Montréal en fin de saison cette année. Si ils sont pas obligés de brûler cette année-là de contrat, ben justement, qu'ils prennent le temps, qu'ils l'envoient à Laval, qu'ils prennent les fameuses répétitions pour s'acclimater au hockey nord-américain. Et on se reverra l'an prochain et on se chicanera au camp d'entraînement, à savoir Montréal ou Laval. On aura le temps en masse d'en parler.
Que de bons balades à prévoir. Ben oui. Richard, il y a même Kent Hughes qui a dit, tu sais, ça me surprendrait. C'est pas planifié de le voir avec le Canadien cette saison.
Non.
Fait que même pas un petit match de rien, là.
Premièrement, tu te dis Reinbacher. C'est Reinbacher, premièrement. Première affaire.
Non, attends. Ça, c'est intéressant. Là. Attendez une minute. Minute papillon. J'ai une conversation avec Martin McGuire.
OK.
Et Martin McGuire nous dit, écoute, j'ai parlé avec lui, puis il dit, tu sais, le nom à l'américaine, ça fait un job, tu sais, puis on peut... Je vous en souvenez, je pense qu'il y avait eu un grand débat là-dessus. Est-ce que vous parlez autrichien ou je sais pas trop quoi, là. Fait que donc, ils ont dit non, allez-y avec le nom en anglais. Fait que ça va être Reinbacher.
Ça va être Reinbacher.
C'est okay. Reinbacher, bon, ben, officiellement.
Tu vois, on règle les enjeux importants en
partant. C'est fait sur le balado.
Très content.
On va être cité pour ça, je suis sûr.
Reinbacher.
Les gens à nous,
donc, mais écoute, pas de petit match pour Reinbacher avec le Canadien.
C'est correct, puis je suis d'accord avec Simon-Olivier. Premièrement, il y a une année pas facile. Hein. Je regardais un petit peu le résumé. C'est trois coachs là-bas qu'il y a eu en Europe. Pour un gars, là, tu vises un développement, tu vises du progrès. C'est pas de la grosse stabilité. Je regardais, les chiffres sont pas impressionnants. Probablement que ça vient de ça aussi. Ambiance qui devait pas être facile. Résultat d'équipe qui était pas très bon. Donc, c'est pas comme si lui avait brûlé là, la ligue là-bas. Et qu'on s'imaginait qu'elle allait arriver avec le Canadien de Montréal, jouer top 4, jouer power play. C'est pas ça du tout. Je suis d'accord aussi avec Simon Olivier sur l'aspect de la patience. T'sais, on dit souvent que les défenseurs, c'est long. Mais là, lui, en plus, tu sais, c'est pas un exceptionnel. C'est un projet à long terme. Je sais qu'il est sorti cinquième au total. Mais c'est pas le gars là qui flash puis qui est dominant, pis c'est pas ce gars là. Alors prenons notre temps, c'est bien parfait, il va aller à Laval possiblement. On souhaite pour les partisans de Laval et du Québec faire un bout de chemin en série. En tout cas, on verra comment ça va se passer. Mais juste apprendre de là, apprendre là-bas, c'est correct. La seule affaire qui me fait peur un petit peu, c'est l'ambiance de la Ligue américaine. C'est un gars qui va débarquer. Cinquième total, c'est sûr qu'il y a une couple de gars qui vont vouloir l'essayer.
Penses-tu,
vont vouloir
arrête, ben oui, ben
c'est
non.
Sûr, c'est sûr à 100%.
Stéphane, t'en penses quoi de le voir Reinbacher avec le Rocket de Laval?
Ben, il faut avoir des attentes très, très basses.
Limitées, ouais.
Limitées, parce qu'écoute, à 19 ans, et puis comme Richard l'a dit, il y a une saison très difficile. Là. J'ai seulement joué 35 matchs cette saison.
A été blessé.
Un but 10 passes, mais il reste que pas joué beaucoup. Et puis, mais c'est surtout le fait que tu arrives à 19 ans dans une ligue qui est pas facile à jouer là, pour un 19 ans. Là. La Ligue américaine, tu as quand même des gars là, de 25, 26, 27 ans. Et puis, tu arrives dans un contexte où les gars sont dans une lutte pour faire les séries. Et puis, ça va être très difficile de loger les six premiers qui sont là. Un Mailloux, Trudeau, Bisson, Galipo, Barron, qui est encore là, et Justin Norlinder, qu'on dit qu'il joue bien dernièrement. Donc, il n'y a pas de place pour lui en ce moment. Et on se rappelle, on avait emmené Strouble l'année passée. Il n'avait pratiquement pas joué. Et puis, c'est un petit peu le même contexte. C'est pas facile d'arriver de l'extérieur, de s'intégrer dans l'équipe tout de suite et de jouer, surtout pour un gars qui a joué sur les patinoires européennes. Donc, c'est juste une intégration très, très lentement au compte-gouttes et puis probablement qu'il va jouer seulement s'il y a des blessés. Mais quand même, c'est le fun de le voir ici. C'est le fun d'être à l'entour de l'équipe puis de voir comment ça se passe. Et puis, c'est une bonne affaire de l'avoir à l'entour de l'équipe.
Ben, Stéphane, sais-tu quoi? Quand tu dis ça, j'ai l'impression qu'on parle de conditions parfaites pour lui. C'est-à-dire, si t'es pas sûr d'avoir une place dans l'alignement de départ, tu vas être sûr, tu vas pratiquer avec tout le monde, tu vas prendre le temps de t'acclimater à la patinoire qui est plus petite, tu vas prendre le temps de t'acclimater au calendrier de la Ligue américaine de hockey, sans pour autant passer d'un fait saillant si tu t'es fait shifter dans un match. Fait que donc, on arrive dans des conditions gagnantes pour lui, là. T'sais, comme tu disais, il n'y a pas de pression, il n'y a rien à perdre dans le fond, là.
Non, exact. C'est une acclimatation qu'il va venir faire. C'est prendre l'expérience, voir comment que ça se passe. Mais en ce moment, je crois pas qu'on le voit là, dans l'alignement là, à court terme.
Bon, moi, je pensais qu'on était partir un débat. Ryan Backer, vas-tu jouer cette année à droite à Hawaii avec le Canadien?
Je vais t'en partir un autre débat, moi.
Oh, vas-y, je suis prêt.
Ça va être difficile pour le Rocket de faire les séries. Puis ils peuvent pas en échapper bien beaucoup. Surtout qu'on joue beaucoup de matchs contre Toronto et Belleville, les deux équipes qu'on doit rattraper. Je pense que j'aimerais mieux voir Ryan Backer à Montréal puis envoyer Strouble à Laval. Strouble, qui lui a fait partie du Rocket cette saison. C'est pas un gars qui arrive d'un outsider qui a aucune idée comment ça se passe. Donc ça pourrait être
Ben, ça va finir par arriver parce qu'ils ont mis ces deux noms-là, Strouble puis ils ont fait la fameuse transaction.
Sera pas trop tard quand on va retourner ces gars-là.
Je me dis que si on fait ça, c'est parce que ça va finir par arriver.
Parce que le match du Rocket contre les Marlies ce week-end...
Vendredi, ça?
Il y en a eu un dimanche, ça a été une catastrophe.
Ah non, mais c'est quoi qui arrive? Vendredi, c'est Belleville, je pense.
Le dernier en liste, c'est une catastrophe. Ils se sont fait planter. Et là, t'es dans une situation où Toronto est passé en avant de toi. Fait que t'as raison, Stéphane, en disant, à un moment donné, c'est le fun de Strouble, mais envoie-les performer avec le Rocket. C'est là qu'on en a besoin, Simon Olivier.
Cependant, après la date limite des transactions, les équipes ont seulement 4 appels dits réguliers, qui n'est pas les rappels d'urgence, qui est vraiment quand t'as plus personne pour jouer. Là. Donc, je pense que ce que Stéphane dit, c'est pas farfelu. Cependant, mon impression, c'est qu'on descendrait peut-être Strouble quand Lane Hudson va arriver. Parce que Lane Hudson, visiblement, arriverait à Montréal directement. Mais là, je sais pas s'il va manquer de temps, s'il fait le tournoi de la fin de saison et tout et tout. Mais je trouverais pas ça, débile du tout de penser que Ryan Backer, peut-être même sans jouer ou en disputant juste un match à Montréal, gravite un peu autour de l'équipe dans le cadre de la Ligue nationale. Ne serait-ce que pour, et comme le dit Stéphane, envoyer Strouble en bas, aider Laval. Je pense que c'est une bonne idée, mais le fait qu'ils sont limités dans leur nombre de rappels, puis ils ont déjà brûlé deux en réalité qui étaient pour Roy et Strouble avec la transaction de papier,
ça limite leur marge
de manœuvre. Alors je pense que si ce scénario-là se concrétiserait, ce serait peut-être plus tard quand il resterait peut-être plus 6-7-8 matchs que présentement comme il en reste une quinzaine.
Bon, Simon Olivier nous ramène à l'ordre. Encore une fois, c'est l'imminence grise.
C'est important d'avoir quelqu'un qui connaît règlement.
Mais j'aime l'idée, Stéphane. Je veux insister là-dessus quand même.
Ça prend quelqu'un d'intelligent dans le groupe. OK, hey, les gars, je vais vous parler de Martin Saint-Louis. C'est une nouvelle qui est tombée avant le match face aux Flames de Calgary. On apprenait que Saint-Louis quittait l'équipe. Je vous dirais que c'est drôle parce que j'en ai parlé ce week-end. Puis, à un moment donné, David Savard qui a dit dans une entrevue à TVA Sport que c'était pour son fils. Son fils était avec nous. Là, je suis allé voir le nom de ses fils. Puis là, dans les bulletins d'information, je me disais, je nomme-tu les fils, là, j'ai fait non, ils vont commencer à regarder tout ça. Je pense que ça fait du bien qu'on laisse un peu d'espace à Martin Saint-Louis qui est retourné auprès de sa famille. Il y a Kent Hughes qui dit pas être entré en contact avec Saint-Louis encore, qui a aucune idée quand il sera de retour avec l'équipe. Juste réaction, Richard, quand t'as appris que Saint-Louis quittait l'équipe.
Ben, premièrement, c'est ça. S'il fait ça, c'est pas pour le fun, là. C'est certainement que c'est sérieux. Alors, je pense que le hockey est très secondaire au moment où on se parle pour Martin Saint-Louis. Je pense que la direction du Canadien est consciente de ça également. Donc, s'il y a besoin de 2 semaines, 2 mois, je pense qu'on va lui accorder. Puis il n'y aura aucune pression de revenir. Puis c'est bien correct. Avant même ça, je trouvais que cette année, il y avait peut-être un petit peu plus de misère, Martin Saint-Louis, avec les, je te dirais, le quotidien de la Ligue nationale de hockey. Parce que tu as parlé de ses fils, sa famille, il n'y a personne qui est ici. Je ne sais pas si les gens sont au courant, mais c'est ils ne sont pas établis ici. Lui, il est rarement ici. Quand il vient ici, ils ne sont pas là. C'est pas facile, ça. T'sais, je comprends que dans la Ligue nationale de hockey, tu es très bien payé pour faire un travail, puis il n'y a personne qui va pleurer. Mais la réalité était qu'il y a des moments où je le sentais peut-être un peu plus dépassé par le quotidien de gérer une équipe de la Ligue nationale de hockey. Okay. Même avant ça. Là.
OK. Ouais. Okay. Stéphane, ton point de vue là-dessus?
Ben, premièrement, une des choses, c'est dans le hockey de la Ligue nationale, puis ça, c'est le fun, les dirigeants de la Ligue nationale, toutes les équipes, c'est tout le temps, ça, c'est clair. La famille passe avant le hockey. Ça, c'est partout. Et puis ça, là, ça, c'est très bien ainsi. J'ai vu souvent des fois où des joueurs ou des coachs ont dû s'absenter pour des maladies dans leur famille ou des morts ou des peu importe ce qui est arrivé. Mais ça, là, c'est un no-brainer dans la Ligue nationale. La famille passe en avant et c'est parfait comme ça. Autre chose, Martin Saint-Louis, l'important, là, c'est qu'il soit où ce qu'il devrait être aujourd'hui avec sa famille. Et puis, c'est pas important de savoir pourquoi. Et ça, là, c'est comme... là, quand je vois ça, là, c'est les rumeurs, puis les ci, puis les ça, puis c'est son gars, ou si c'est ci, ou c'est ça. Ça, je pense que c'est pas important. C'est rien que de respecter le fait qu'il doit être chez eux. C'est correct de même. On se souvient que seulement il y a quelques années, je veux dire, c'est pas évident quand même perdre ton coach en chef de même, parce que je me souviens il y a quelques années, j'étais dans la bulle. Et puis, quand un matin, à 7 heures du matin, le téléphone sonne, c'est Marc Bergevin qui dit réunion d'urgence de tous les entraîneurs. On s'en va dans une salle et on apprend que Claude Julien a été victime d'un malaise pendant la nuit qui est parti en ambulance. Donc, ça shake un peu tout le monde, tous les joueurs. Et puis, c'est normal que le Canadien avait l'air d'une équipe qui était shakée. À Calgary, on vit ensemble, hein? Il y a des liens, on vit à tous les jours ensemble, donc ça affecte l'équipe, ça affecte tout le monde.
OK, ah non, mais attends Stéphane, c'est vraiment intéressant parce que j'avais pas fait le lien puis je m'en souvenais pas de Claude Julien. T'as raison, dans la bulle. Moi, je veux savoir une chose, quand ton DG t'appelle pour dire réunion d'urgence, est-ce qu'il dit c'est le coach, il y a un problème, un petit problème, non. Quoi que ça, il dit rien, il dit juste réunion d'urgence?
Non, il t'appelle, il travaille le matin et puis dans 15 minutes, on veut voir dans telle salle, on n'a aucune idée de ce qui se passe.
Est-ce que dans cette circonstance-là, tes fonctions changent, étant donné que là, tout le monde doit prendre un peu plus de job, est-ce que toi, tu as eu à changer tes fonctions, faire quelque chose de plus?
Pas moi, mais on avait quand même beaucoup d'entraîneurs et on avait Dominique Ducharme, on avait Kirk Muller et Luke Richardson, tous des gars qui pouvaient prendre l'équipe n'importe quand. Et c'est Kirk Muller qui était son poste était associé, entraîneur associé. C'est lui qui est devenu notre entraîneur-chef pour le restant des séries dans la fameuse bulle. Et puis je me souviens qu'on nous disait que Claude voulait pas partir. Il fallait qu'il parte parce que c'était un malaise assez majeur, mais il voulait pas partir parce qu'il avait un règlement dans ce temps-là que si tu quittais la bulle, tu pouvais plus revenir.
Ouais.
Si tu sortais de cette fameuse bulle-là, c'était fini, tes séries, t'as fini, peu importe un joueur, un entraîneur, un dirigeant, c'était fini. Donc, il voulait pas partir, mais à un moment donné, il faut que ça soit ta santé qui prime en premier. Donc, mais ça pour dire que sachez qu'une équipe, puis c'est ce qui s'est passé avec Canadien.
OK, attends, une autre question. Comment les joueurs ont réagi? Parce que là, on va comprendre un petit peu mieux peut-être comment les joueurs du Canadien ont réagi quand on a appris que Martin Saint-Louis quittait l'équipe. À l'époque, comment les joueurs réagissent? C'est sûr que vous aviez des vétérans, là. Vous aviez quand même pas mal de vétérans, mais comment les gars ont réagi?
Ben, c'est une bonne question parce que la première chose qu'on a faite avec les coachs, tous les coachs quand on a su ça, c'est de faire venir tous nos leaders, les Price, Weber, tous ceux qui avaient un A. Plus avec Carey. Et puis, c'est d'eux expliquer ce qui se passe. Puis, c'est à eux, les joueurs, de faire le message aux autres joueurs. Mais, ça avait les joueurs, t'as tout, oh my God, tout surpris, tout sur, je me souviens de le déjeuner qu'on avait là, il n'y a pas personne qui parlait. T'sais, c'était comme, tout le monde t'inquiète. Et puis, ça prend une journée ou deux avant de dire, OK, là, on focus sur ce qu'on a à faire, puis on move on, mais sur le coup, tu sais, t'as des liens serrés dans l'équipe de hockey, puis n'importe qui arrive ça, mais sachez que c'est juste normal.
Et peut-être juste mentionner qu'au cours des prochaines heures, des prochains jours, vous allez lire toutes sortes de théories farfelues sur les réseaux sociaux pour dire qu'est-ce qui se passe vraiment. Juste sachez là, qu'il y a très peu de gens, tu comptes ça sur les doigts d'une main, les joueurs, mais à l'extérieur de ça, qui sont vraiment au courant de ce qui se passe. Des fois, l'équipe va dire aux journalistes qui sont sur place qu'est-ce qui se passe en demandant de ne rien dévoiler. Mais sans plus là. Et puis moi j'ai vécu ça à quelques reprises déjà là, que, à un moment donné je me souviens entre autres qu'il y a un joueur qui s'est absenté là, il y a quelques années, l'équipe nous avait dit la raison exacte, mais s'il vous plaît ne pas le publier, mais on vous le dit juste pour que vous soyez capable de comprendre
rumeurs.
Ce qui se passe là. Ouais, exactement,
pour faire taire certaines rumeurs, des fois tu dis bon ben écoute le gars, c'est ça là, on gardait ça pour vous autres, c'est ça. C'est pas aussi grave que toute la rumeur qui est rendue, que des fois des rumeurs c'est rendu, c'est fou. Mais c'est ça. C'est un bon point, ça, Richard.
Mais dans le cas présent, comme là, à l'instant où on enregistre le balado, je pense que le Canadien s'entraîne présentement dans la belle ville d'Edmonton. Que je sache, il n'y a pas eu un debriefing comme ça. En tout cas, il n'y en a pas eu à Calgary avant ou après le match. C'est pas arrivé. Ça, c'est une espèce de briefing-là dont parle Richard, puis je comprends ce qu'il veut dire, mais pour ce point-ci, l'équipe a demandé de garder ça, pas confidentiel, mais de laisser la place à Saint-Louis, puis de respecter son intimité. Puis, en tout cas, du côté journalistique, du côté de la communauté journalistique à Montréal, je suis pas inquiet que ça va être respecté.
Moi, ce que j'ai remarqué dans le match face aux Flames de Calgary, c'est drôle, je regardais le match avec mon gars, puis à un moment donné, on voyait le jeu qui se déroulait. C'est sûr que le match commence mal, là, c'est 3-0 pour les Flames de Calgary, puis des, t'sais, j'appelle ça une zézette en début de deuxième, puis tout ça, puis je regarde mon gars, puis je dis, c'est là que tu te rends compte que le vrai capitaine du Canadien de Montréal, c'est Martin Saint-Louis. C'est lui le leader, là. C'est lui le chef de ce club-là. Clairement, dans le match, tu le voyais que ça manquait, Richard. Tu voyais qu'il manquait quelque chose.
En même temps, ça peut avoir l'effet rassembleur aussi. Tu sais, des fois, quand il arrive quelque chose comme ça, le club aussi peut se rallier autour
Ils sont jeunes. Ouais. Ils sont jeunes en temps. C'est là que tu te rends compte.
Trop jeunes pour faire ça, tu penses?
Je pense que oui. Je pense qu'il était vraiment déstabilisé. Vas-y, Steph.
Je suis d'accord avec toi, JR. Ça te fait réaliser que Cibol, c'est vrai, le vrai leader de cette équipe-là, c'est Martin Saint-Louis. Et puis, je pensais à ça justement regardant le match, je me disais, Cibol, ils sont pas là pantoute. C'est vrai, le leader, le joueur, c'était pour dire le joueur le plus important, c'est quasiment ça.
Puis dans les entraînements, on le remarque, ça. Moi, ça me frappe souvent dans les entraînements.
On le remarque.
Va voir individuellement un joueur. Par exemple, là, va jaser avec 5 minutes. Après ça, va voir un autre joueur, jaser avec lui. Tu sais, il est très, très près de ses joueurs. Il a un rôle pratiquement de pédagogue, de professeur, d'enseignant. Et je pense que ça se ressent beaucoup. Alors, c'est sûr qu'un un coach qui est près de ses joueurs comme ça, qui doit s'absenter. Effectivement, si c'était un club peut-être avec plus de vétérans, il y aurait peut-être un autre effet.
Ouais, un petit peu qu'est-ce qui s'est passé justement avec mon exemple, où ce que t'as des Weber, des Price qui avaient pris la relève, puis c'est beau les boys, inquiète-toi pas, Kirk, Robin Allais, puis les vétérans avaient pris ça en main.
Ouais. Et le Canadien, pour ajouter à ça, est dans une situation particulière, encore plus particulière que Saint-Louis, c'est celui qui a le plus d'ancienneté derrière un banc de la Ligue nationale, et c'est sa troisième saison. Stéphane Robida, c'est sa deuxième saison comme assistant. Letovski, c'est sa quatrième saison, mais il a fait juste un petit... Burroughs, c'est sa quatrième saison, mais il a fait juste un petit bout en 2021. Puis Letovski, c'est sa troisième saison. Lui, il a été entraîneur-chef dans le junior, mais c'est tout. Et Saint-Louis, c'est le plus vieux de ce trio, de ce quatuor-là. Dans le fond, son compte Robida, Letovski, Burroughs et lui, c'est lui le boss. Je dis pas qu'il agit comme tel. Je dis pas que c'est un tyran.
C'est lui
là,
le leader.
C'est vraiment lui le leader à tous les niveaux. En dessous de Kempio, c'est vraiment lui.
Avec lui.
Exactement. Non, exactement. C'est ça mon point. Puis je dis pas que c'est un problème, mais on l'a en face présentement. On le voit. Là. Ça va être intéressant de suivre comment ça va se dérouler dans ce voyage-là. En plus, dans un voyage excessivement difficile. Je pense qu'Edmonton puis Vancouver, ce sera pas le party. Là. Fait que, en tout cas, on leur souhaite que du
bon. Vas-y, un petit point là, par rapport à ça, là, parce que j'entends des commentaires depuis une couple de jours dans le style « Ah, pourquoi Letovski ne parle pas en français? » Mais c'est le seul qui a l'expérience en chef.
Oui, c'est exact.
Les trois, tu sais, je veux dire, Steph, il a fait une saison Midget 3, là, mais je veux dire, en chef, la seule expérience, c'est Letovski.
Attends, y a-tu vraiment quelqu'un qui a dit « Il ne parle pas français? »
J'ai vu ça sur un commentaire. Ah, ouais, voyons donc, come on. C'est la même chose qu'on avait entendu avec Kirk Muller. Ah, oh, il est bien bon, Kirk Muller, mais il parle pas français.
Non, mais là, je peux comprendre un entraîneur-chef qui est nommé par l'organisation. Ouais. Mais là comme ça,
c'est la situation d'urgence.
C'est une formule d'urgence. Ouais. Voyons,
exact.
Allô,
et c'est le bon choix pour moi dans les trois. Là, le seul qui a d'expérience pour diriger un banc. C'est quelque chose qui, ça va vite. Là.
Bon, OK, les gars, là, c'est le temps de se contredire parce qu'on est des spécialistes. Une semaine, on dit quelque chose. La semaine d'après, on dit le contraire. Bon, on a vanté Caden Primeau, blanchissage de 3-0 face au Blue Jackets.
Toi, t'es en train de lui donner le poste de numéro 1 à un moment donné.
Définitivement. Ouais, c'est ça. Donc, Caden Primeau, enfin, on a été patients. Et même Stéphane nous avait dit, moi, je l'ai toujours dit, Caden, il est bon.
Ce qui est vrai.
Ce qui est vrai, là, en passant.
Un fidèle.
OK. Là, Stéphane,
est-ce que. Ça a moins bien été. On va dire ça de même.
J'aimerais que Stéphane se justifie maintenant. Okay, Stéphane a des comptes à rendre.
Bonne ou mauvaise performance de Caden Primeau face aux Flames?
Est-ce qu'on peut dire que même Carey Price a eu des mauvais matchs?
Ah bon, ça y est. Là, t'es-tu en train de comparer les deux?
Non,
c'est ça que t'étais en train de faire.
Okay. OK, non, on arrête ça là. Non, Caden, non, ça a été un match difficile. Un match difficile et c'est son troisième, en 15 départs cette année, c'est son troisième match difficile, ton trois matchs de 5 buts contre. On se rappellera contre la Floride en novembre, contre Ottawa en janvier et Calgary. Mm.
Ça a été parmi ces mauvaises cette année-là.
Oui, ouais. C'est ça. C'est trois pires performances de la saison sur 15 départs. Et puis, écoute, non, ça n'a pas été un bon match. Il n'y a aucun doute là-dessus. Surtout, je pense que J.R., tu l'as mentionné un petit peu tantôt, là, le deuxième but. Là, ça fait mal. En partant la deuxième, en partant. T'es 1-0, t'es quand même là. T'es dans le match. En partant la deuxième, un lancé de loin. Le joueur traverse la ligne bleue, fait un petit lancé de routine au filet, donne un très mauvais retour. Et après ça, mais hors d'équilibre, il se fait marquer après ça. Donc, ça, là, ça tue. Ça tue ton équipe.
Et le Canadien n'a pas l'équipe pour se remettre de ça.
Exactement.
Heureusement, c'est pas arrivé souvent cette année quand même.
Ils ont ramené ça à 3-2.
Oui, c'est vrai. Ouais, mais après c'était une illusion.
Oui, exactement. Ce n'était qu'un rêve. Malgré 3-2, j'ai jamais senti le Canadien dans le match. Jamais. Et puis, non, c'est un départ très, très, très ordinaire de Caden Primeau. Et ça arrive.
23 arrêts seulement et 821 son taux de pourcentage dans ce match.
T'as un mauvais but sur 5. Les autres, je les ai tous vus un après l'autre. La défensive, là, il y a une coupe de buts. Que c'était assez désorganisé. Merci. Spécialement le cinquième but, ça n'a aucun bon sens. Les Madison, Goulet, Caulfield, Slavkovski et Suzuki. J'ai regardé à peu près trois fois ce fameux but contre-là. Tout le monde était partout sauf à la bonne place. C'était incroyable. Mais il reste que ça a été une performance très ordinaire de Caden et une performance très ordinaire du Canadien.
Dans cette saison aussi, le Canadien a été chanceux parce que c'est pas arrivé quand même trop souvent là, qu'un gardien de but soit responsable de la défaite. C'est pas ça, mais tu sais, qui vont scier les jambes du reste du groupe. C'est pas arrivé souvent, mais quand ça arrive, on voit que cette équipe-là est pas encore à maturité. Là. C'est-à-dire que ça arrive et ça a un effet, tout le monde se dégonfle soudainement parce que t'as pas l'équipe pour te replacer après un mauvais but, mais encore moins des mauvais buts. T'sais, le Canadien n'est pas là encore. On parlait l'autre fois d'apprendre à gagner. Là. Bon, ça fait partie des choses.
On est dans le processus, c'est le mot magique.
J'aime pas ça, ce mot-là.
T'aimes pas ça, le processus? Non. T'aimerais mieux quoi, toi?
Cheminement.
On est dans le cheminement.
Oh, c'est beau.
C'est
vrai que
c'est beau.
OK, les gars, avant d'aller à la pause, on va faire appel à notre grand sage du balado, Simon-Olivier Lagrange. Simon-Olivier, dans la situation actuelle, Martin Saint-Louis n'est pas là, on ne sait pas quand il va revenir. Notre gardien de but primo numéro 2.
Numéro 2.
a connu quelques problèmes. Comment tu vois la suite du voyage? Comment tu vois Edmonton? Comment tu vois Vancouver? Comment tu vois le Kraken? Comment tu vois le Colorado?
Ben en fait, la défaite contre Calgary, elle s'inscrit dans un pattern qui est très récurrent chez les Canadiens. C'est-à-dire que Calgary, c'est un club qui n'est pas dans le portrait des séries, qui va très vraisemblablement les rater. Et le Canadien, quand il contre-performe, c'est souvent dans ces matchs-là. Le Canadien s'est fait rosser aussi contre des bons clubs, là, faut pas se méprendre, mais il venait de jouer un fort match contre les Blues de Boston, en tout cas défensivement, pas offensivement. Le Canadien n'a pas l'effectif pour faire durer ça dans le temps. C'est ce qu'ils veulent, c'est ce qu'ils souhaitent. Ils parlent toujours de la constance, mais sont pas là, là. Fait que c'est pas surprenant qu'après une grosse performance contre Boston, il y ait un peu une espèce de baisse de régime dans le match suivant qui était celui à Calgary. En plus, l'équipe était secouée par une nouvelle dont on ne connaît pas la teneur. Je serais pas surpris que le Canadien joue mieux à Vancouver, mais à Edmonton, c'est mardi. Le Canadien qui a bien fait contre les Oilers cette saison, qui avait gagné. Non, il avait perdu, je pense, en prolongation.
Le dimanche. C'est pas le dimanche du Super Bowl.
Ça, c'est l'année passée.
Ah, c'est l'année passée. Je me mélange dans mes années.
Mais il avait gagné au Centre Bell. Cela dit, les Canadiens contre les Oilers jouent bien au Centre Bell, c'est moins facile à Edmonton. Fait que c'est, comme on disait, ce sera pas, évidemment, contre McDavid et Draisaitl, etc., ce sera pas facile, mais je m'attends à ce qu'ils paraissent mieux que contre les Flames.
Souvent, ils jouent à la hauteur de l'adversaire. C'est vraiment ça cette année, comme Simon Olivier vient de leur dire. C'est les moins bons matchs sont contre les moins bons clubs, puis maintenant, on pense qu'ils vont se faire planter contre les meilleurs, puis ils tiennent tête aux meilleurs. T'sais, on a vu récemment contre les Leafs, on l'a vu récemment contre Boston, même si ça a été contre Boston une défaite crève-cœur. Mais ils sont capables de compétitionner avec ces équipes-là. Je ne sais pas pourquoi il y a un relâchement contre les moins bons.
C'est un bon point. Mardi passé, je faisais avec RDS l'antichambre, puis après le match, on recevait Nick Suzuki. Et puis ma question était à Nick, pourquoi... c'était contre Boston, où le Canadien avait joué tout un match. J'ai demandé à Nick, pourquoi... c'est quoi la raison que vos meilleurs matchs, vous jouez contre les meilleures équipes de la Ligue, et c'est quoi la raison puis que vous performez pas contre les équipes que vous devriez battre? Et puis il me dit, pauvre Nick, il n'y a aucune réponse. Il dit, bonne question. Il dit, j'en ai aucune idée, mais c'est quelque chose qu'il faut qu'on règle.
Bon, mais quand quelqu'un dit bonne question, généralement, ça veut dire qu'il n'y a pas de bonne réponse.
Il n'y a pas de bonne réponse. Fait que t'as Edmonton, tu vas avoir également Vancouver, puis tu vas avoir Colorado, tu es supposé connaître des bons matchs parce que c'est des bonnes formations. Les gars, on va s'arrêter quelques instants pour retour. On va se parler des directeurs généraux qui se rencontrent du côté de la Floride. Donc, on va jouer au DG, on va jouer au directeur général. Préparez vos bâtons de golf. On est de retour au balado sortie de zone saison 5, épisode 46 avec Simon-Olivier Larange, Richard Labbé, Stéphane White. Les gars, les DG sont réunis du côté de la Floride. On est là jusqu'à mercredi, à moins que je me trompe, c'est ça?
Je pense que c'est trois jours.
Trois jours où on travaille un brin le matin, on va jouer au golf l'après-midi ou vice-versa.
Ils vont jamais à Winnipeg pour ces réunions-là. Je vais marquer ça.
Ça, c'est le running gag, ça. Je disais tout le temps les GM, c'est drôle, hein? Mais c'est jamais à Winnipeg ou à Buffalo. C'est un hasard.
Putain, ils ont des centres de congrès à Winnipeg. Ils ont des installations. Le Delta à Winnipeg à côté de l'aréna, c'est super pratique.
Ah, c'est pratique. Tu peux aller voir du hockey après, t'es focus. Mais tout ça pour dire, c'est que là, il y aura des thématiques qui seront abordées. Et là, j'ai le goût que nous prenions la place des directeurs généraux quelques instants. Je vais vous amener des thématiques et vous allez me dire ce que vous en pensez. Parfait. Une des thématiques qui sera avancée, c'est évidemment le comité de discipline présidé par M. Parros, qui nous prouve, hors de tout doute, que des fois, c'est surprenant les décisions qui peuvent prendre du côté du comité de discipline, des fois trop sévères, des fois pas assez sévères. Donc, je fais un tour de table, je commence avec Simon-Olivier. Est-ce que Parros sont assez sévères, les décisions prises, ou on devrait être encore plus sévère? Comment tu vois ça?
Ben, je pense qu'ils sont minimalement assez sévères. Je pense pas que personne dans la vie, dans l'univers connu, trouve que George Parros est trop sévère, ou peut-être les gens de Toronto, quand ils punissent quelqu'un de Toronto, je pense que là, c'est effrayant. Mais sinon,
c'est une exception.
Il y a eu six matchs pour David Perron.
Non, je pense que Parros, parlons du comité, là, pas seulement de Parros, il prend pas ses décisions seul. Je pense pas. Je sais pas si c'est la personne qui est pas la bonne, mais je pense que la structure pourrait être... Je remettrais en cause plus la structure que la personne, dans le sens où le fait que le comité qui impose la discipline soit un employé de la Ligue nationale, ben ça fait une drôle de position. Après ça, la mesure d'appel, ça, on monte au commissaire, qui est le patron de ce gars-là. Ça arrive jamais que Gary Bettman revire une décision qu'a prise George Parros. Et après ça, quand il y a une audience avant une suspension, comme ça avait été le cas pour Brendan Gallagher, ben le joueur fautif et représenté peut défendre sa salade, mais pas le joueur qui s'est fait frapper.
Pas la
victime. Donc, il y a toutes sortes d'incongruités. Et là, après ça, justement, quand une suspension tombe, dans un cas hypothétique, ben là, l'association des joueurs se trouve à vouloir aller en appel au nom de l'agresseur, mais la victime, dans ce cas-là, qui manque des matchs, puis qui a une commotion cérébrale ou je ne sais quoi, il y a une espèce de débalancement complet des pouvoirs dans cette histoire-là. Puis je ne sais pas si à quel point on pourrait penser qu'il pourrait avoir une espèce d'instance neutre ou une tierce partie qui serait un comité de discipline qui n'est pas employé par la Ligue. Mais moi, je vois plus, comme je disais, je vois plus un problème structurel que de dire c'est George Parros qui est trop sévère ou pas assez sévère.
C'est pas...
c'est plus là que je le vois le problème.
OK, j'entends Stéphane qui réagissait par rapport à l'association des joueurs, Stéphane.
Exact. C'est le plus gros problème de George. Pauvre Jungle George, on l'appelait. À toutes les fois qu'il est un petit peu trop sévère, t'as l'association des joueurs qui s'en mêle. Là. Non, on va aller en appel, puis c'est pas correct, puis c'est ci. Et puis, c'est le plus gros problème. C'est son plus gros problème à George Parros. C'est l'association des joueurs qui lui met tout le temps des bâtons dans les roues. Donc, pauvre gars, il est tout le temps limité, comme les mains liées tout le temps. Et puis, mais j'haïs pas le fait de qu'est-ce que Simon-Olivier vient de dire, que ça serait peut-être le fun d'avoir un genre de comité de discipline un petit peu plus indépendant. Mm. Puis on parle de comité, pas une personne, même si je suis d'accord que c'est sûrement pas juste George qui décide.
La Ligue est incapable de comprendre qu'il y a un problème avec tout ça.
Mais c'est ça. Ouais. C'est là que je voulais finir avec la Ligue. Oui, ça serait peut-être une bonne idée d'avoir un comité plus indépendant, mais la Ligue tient à avoir le contrôle là-dessus. Ils donneront jamais ça à un comité indépendant parce qu'ils vont perdre le contrôle là-dessus, puis ils veulent garder le contrôle. Ouais.
Et George Power, c'est pas le problème. George Power, c'est juste quelqu'un qui est là. Tu peux l'enlever, mettre quelqu'un d'autre demain matin, puis ça...
Un gars très intelligent, George Power.
Un gars de Ivy League. Mais tu sais, tu peux mettre qui tu veux, vraiment. C'est la structure qui est en place, comme si moi on le vit, mais aussi les mentalités, puis ça va être une éternité avant que ça change. Moi, je me suis amené la finale des Kings contre les Devils. C'est en 2012. Dernier match, souvenez-vous, puis là, j'ai oublié le nom du joueur québécois des Devils qui fait un double échec. Là. Il se ramasse à 5 minutes de punition. Un geste assez... C'est-tu Veilleux? Je pense que c'était ça.
Ou Bernier?
C'est-tu...
Bernier?
C'est lequel, je me souviens plus lequel.
Bernier.
C'est Bernier, putain. Ouais, je pense que c'était ça. Je pense que c'est Bernier.
Quand tu me parlais, je regarde.
Puis, Simon-Olivier va le vérifier. Puis, bref, c'est un geste là, vraiment, vraiment, vraiment très, très vicieux. Punition de 5 minutes. Les Kings marquent 3 buts lors de la punition de 5 minutes, puis je pense que les Devils parlent le match, évidemment. Après ça, là, moi, je parle avec des gens sur place. Je dis, le geste de Veilleux, allez-vous revoir ça? Écoute, il y a assez payé, là, ils ont marqué 3 fois. Parce que s'ils avaient marqué 0 fois, ça serait-tu plus grave? Tu comprends? Il y a toujours cette justification-là qu'on tente d'appliquer. C'est un coup de bâton en face d'un gars, là, il a mis sur le vide, gars.
C'est la mentalité de garder ça à l'interne.
Exactement.
On va régler ça entre
exactement.
Nous autres,
puis c'est pas si grave. Puis là, c'est qui a fait ça? Ah, ce gars-là, l'as-tu déjà fait avant? Tu sais, on trouve plein de façons de justifier des suspensions, puis c'est jamais les bonnes façons. Tu sais, un coup de bâton en face, là, peu importe si c'est ta première fois ou ta 25e fois, t'as-tu fait un coup de bâton en face, oui ou non? C'est un geste qui est dangereux, qui est illégal. À partir du moment où tu tolères ça, ben tu te retrouves avec ce qu'on a présentement, c'est-à-dire quelque chose de tout croche. On comprend pas une suspension parce qu'il n'y a pas de constance.
Okay.
À partir du moment où tu as le goût d'être sérieux puis d'avoir de la constance, les joueurs vont commencer à comprendre qu'il y a des répercussions. Mais là, présentement, c'est un peu aléatoire. Tu sais, je regardais le coup de te parler de David Perron. Tout le monde, la première affaire qu'on a mentionnée, c'est « Ah, c'est pas un joueur de même ». Ben, OK. Mais l'as-tu fait ou non? Tu sais, ça avait été, mettons, Brad Marchand.
Ouais, mais attends, si tu recules, le même geste, là, 15 ans, je pense pas qu'il y ait 6 matchs de suspension, là.
Ben, je le sais pas, parce que c'est pas constant.
Ah, ben, moi,
il y a jamais de constance là-dedans, puis c'est ça le gros problème. Alors, tant que t'as le pas le processus, mais t'as le procédé que t'as présentement, tu vas avoir de la confusion. Puis les joueurs eux-mêmes savent même pas sur quel pied danser.
Simon-Olivier.
Je vais vous dire deux affaires. D'abord, c'est Steve Bernier.
Steve Bernier.
Voilà! Merci. deuxièmement, en fait, la discussion qu'on est en train d'avoir, c'est une discussion qui est pas facile pour les DG, parce que les DG eux-mêmes sont dans les deux chaises en même temps. Ceux de quand c'est leur joueur qui se fait frapper, qui disent c'était écœurant, tu sais, ou après ça, ils le disent jamais publiquement ou rarement. Sauf que quand c'est leur joueur qui est puni ou qui est pas beaucoup puni pour un geste qui est parfois très disgracieux, ben, on les entend pas.
Exact.
Alors, je sais pas à quel point c'est les bonnes, j'ai pas la réponse à cette question-là, puis c'est, dans le fond, qui doit prendre cette décision-là, d'où ça va venir.
Je vais vous donner un exemple de comment c'est compliqué. Quand on a annulé la saison en entier là, de 2004-2005. On a bon, évidemment, on voulait imposer le plafond salarial. Une des choses qui a été mentionnée à New York des meetings de l'été, je m'en souviens, j'étais là, c'était comment faire pour rendre le jeu plus excitant, pour ramener des fans à l'aréna, pour rajouter du spectacle offensif. Une des choses, ça a été... on va resserrer l'arbitrage. Donc, et tout le monde dans la Ligue avait eu les arbitres, les DG, tout le monde avait eu le mémo. OK, là, on commence en octobre. Là on resserre l'arbitrage. Là. C'est-à-dire, là, si tu donnes un coup de bâton en arrière d'un gars dans la tête, après qu'il ait marqué, ça va être un 2.
Si, on, seulement.
On l'a dit, là, c'était clair. Et là, ça a duré 2 mois, là. Moi, j'avais des DG que je voyais, Bobby Clark, entre autres, que je me souviens, là, qui est venu me voir, puis qui s'est plaint, ça n'a pas de bon sens, les petits joueurs sont en train de dominer, ils font ce qu'ils veulent en avant, tu filais, on a... Faut que... Ça a duré 2 mois, puis en revenant des fêtes, c'était terminé. On était revenus aux vieilles règles, c'est-à-dire de laisser passer, puis aléatoire, parce que les DG qui eux autres même à New York avaient voté pour ça, à l'été, soudainement, s'étaient rendu compte que, ah, ben là, finalement, ça n'a plus de bon sens. Les petits joueurs sont en train de faire ce qu'ils veulent.
Ouais.
Alors, tu sais, c'est long, là, changer les mentalités. Là.
Mais le lobbying, Stéphane, est très fort dans la Ligue nationale de hockey. Tu sais, qui tu connais, qui tu es, des fois, tu parles plus fort, tu peux avoir plus de poids. Ça change la donne un peu, Stéphane.
Bon, puis c'est clair. Écoute, c'est certain que les vieux, les plus vieux gérants général de la Ligue mènent la Ligue, même si tout ce qui va se faire en Floride depuis dans les 3 jours, c'est seulement des propositions parce que c'est pas les gérants général qui votent, ça va être les gouverneurs qui vont voter dans une réunion plus tard si on change les choses. Mais il reste que il n'y a aucun doute là-dessus. Et puis ça, c'est Marc Bergevin me l'a déjà dit. Il dit, les vieux gérants généraux, les Glenn Sailor de ce monde, les Kenny Olin et ces gars-là, c'est eux autres qui rendent la Ligue. Il n'y a aucun doute là-dessus.
OK. Là, les gars, on va être des vrais DG parce que là, on a du golf dans à peu près 45 minutes. On a des sujets, faut les passer. OK. Contrôle de rondelles en prolongation. Là, je lisais tantôt sur les réseaux sociaux, avant qu'on commence le balado, il semblerait qu'il y a un petit groupe déjà de DG qui ont dit on va rien changer là-dessus. Puis là, on va proposer ça un plus grand groupe, mais je vous explique. En fait, c'est le contrôle de la rondelle. Tu sais, quand on est en prolongation, on est à 3-3, les joueurs décident de sortir de la zone offensive pour contrôler la rondelle. Pensez-vous qu'on doit changer ça? Est-ce qu'on doit empêcher les clubs, justement, de contrôler la rondelle à un tel point où l'équipe adverse n'a pas une chance de toucher la rondelle? Comment vous voyez ça, Smolvi?
Je trouve ça complètement ridicule de vouloir empêcher ça. Je trouve que c'est les joueurs de talent ont trouvé une manière, justement, de garder la rondelle. Ben, c'est à l'autre équipe de la chercher, puis je comprends qu'à 3-3, c'est plus facile à dire qu'à faire, là, mais moi, je vois pas du tout un problème de voir où il n'y a pas de jeu, on sort, on recommence, de voir les bons patineurs se démarquer et des fois se faire prendre. Regardez Matheson l'autre fois, qui c'est pas une situation où il est sorti de la zone, mais tu sais, des fois, même les meilleurs joueurs de l'équipe ou les plus rapides, les plus efficaces se font pogner. Fait que moi, je vois pas de problème avec la prolongation à 3-3. Si on voulait changer vraiment la manière de jouer la prolongation, moi, je changerais le système de pointage. Le fameux point de loser là, qui est assuré en prolongation, un point.
Peux perdre si tu sors ton gardien de but.
Avons-nous tous appris il y a quelques semaines. mais tu sais, qu'on donne 3 points pour une victoire à la régulière, qu'on donne 2 points en prolongation, 1 point si on perd. Ou en tout cas, je pense que changer l'enjeu, peut-être que ça changerait la structure du jeu. Mais comme tel, moi, j'ai aucun problème à voir les joueurs de talent sortir avec la rondelle puis réorganiser l'entrée de zone parce que je trouve que c'est le fardeau de contrer ça, ça revient à l'équipe en défense.
Ouais, puis que tu fais quoi pour... Je sais pas, est-ce qu'on peut pas établir comme au basketball, par exemple, un cadran? Où...
Non, mais au basketball, t'as pas le droit de retourner dans ton territoire.
Non,
ça veut dire que t'as la ligne du centre qui
partage.
Si tu retournes, on siffle puis tu donnes la rondelle à l'équipe adverse.
Exactement. Je vois pas comment tu peux appliquer ça au hockey, donc je vois pas de piste de solution vraiment valable dans ce cas-ci. Je pense qu'on est mieux de toucher à rien, puis comme Simon Levy dit, changer le système de points. Ça, je pense que c'est vraiment plus intelligent, mais là, encore une fois, on parle de la Ligue nationale d'hockey où tout est très, très long, très lent. Alors, ça arrivera peut-être pas tout de suite. Ça.
Stéphane, toi, y a-t-il quelque chose que tu voudrais amender là-dedans?
Non, absolument rien. C'est très, très excitant, la manière qu'on le joue en ce moment. Et puis, c'est excitant parce que souvent, on contrôle. Aussitôt qu'une équipe fait une erreur, boum! Moi, je trouve ça, là, c'est un petit 5 minutes assez intense, puis... pour moi, j'ai rien à changer okay. à cette prolongation-là.
Donc, c'est proposé par Stéphanois. T'es-tu quelqu'un qui seconde?
Je seconde.
Ça, c'est pour les minutes de notre réunion. OK, contestation des entraîneurs. Est-ce que ça vaut la peine? Parce que là, à chaque fois qu'on conteste, on a l'impression qu'il y a un meeting au banc où on dit, moi, c'était ça, c'était pas ça. Est-ce que c'est efficace, la contestation des entraîneurs? Je commence avec Stéphane, vas-y donc.
Moi, j'aime ça. Je trouve que c'est très efficace. Et puis, des fois, c'est long. Des fois, faut améliorer le temps d'attente parce que c'est très long. Mais je sais qu'on a on a un temps qui est alloué à l'entraîneur de prendre une décision, mais souvent, il le dépasse.
Ben
et
oui.
puis, il dépasse la plupart du temps. Peut-être être un peu plus strict là-dessus, sur le temps. Il doit y avoir quelqu'un là, au banc des punitions qui est capable de timer ça. Là, aussitôt qu'il y a un but, tu as 30 secondes ou une minute pour prendre une décision. Souvent, c'est long. Donc ça, c'est faut raccourcir ce temps-là. C'est souvent de la confusion entre les arbitres et les coachs. Puis, c'est-tu contestable? C'est-tu l'arbitre qui le fait? Puis ou c'est le coach? Mais au niveau, moi, je trouve que ça enlève beaucoup d'erreurs dans le game ou des choses injustes qui pourraient arriver s'il n'y aurait pas ces contestations-là. Donc, moi, j'aime ça.
OK, mais il y a le sujet de contestation aussi. C'est technique. À un moment donné, je me souviens de Martin Saint-Louis qui dit « J'avais pas le droit de contester là-dessus, mais je pouvais contester sur le temps d'arrêt de jeu ou je sais pas trop quoi. »
Ouais, c'était récemment, c'est sûr.
Ouais.
C'était à Nashville, quand les Prédateurs avaient égalé la marque avec quelques secondes à jouer.
Michael McCarron aurait marqué
un but gagnant parce que le Canadien gagnait en prolongation. Mais il contestait pas le bâton trop haut. Il contestait
le temps d'arrêt de jeu,
en tout cas.
Ouais, bref, exactement.
Moi, j'ai pas. Les contestations elles-mêmes me dérangent pas. Moi, il y a deux choses que je noterais. D'abord, je prendrais volontiers un PowerPoint exhaustif sur qu'est-ce qu'une obstruction sur le gardien, parce que j'ai l'impression
qu'il y a personne qui le sait.
On pige dans le chapeau, puis des fois c'est ceci, des fois c'est cela. Et j'en appelle à ce que la Ligue comble son retard technologique. C'est-à-dire que combien de fois ça arrive que, et j'imagine qu'à Toronto, ils ont des meilleurs angles que nous, mais combien de fois que ça arrive que le hors-jeu, là, on a une espèce de vue pixelisée, complètement, tu sais, médiocre, où que la rondelle, tu rentrais, tu pas rentré, que là, c'est, on sait pas, tu sais, il y a des puces dans les uniformes, il y a des puces dans les rondelles. Comment ça se fait qu'on est à se poser la question avec le moins pire angle de caméra, qu'on a l'impression que c'est pris dans le noir, que c'est avec un gros grain dedans? Je suis pas sûr que les gens qui prennent les décisions ont les meilleurs outils possibles pour les prendre. Quand on regarde la NFL, on s'entend que c'est un autre système de moyens, puis le fait que ça se joue sur un grand terrain, un univers de possibles qui est différent, mais la NFL qui va chercher une tête d'épingle à 100 mètres de distance, la Ligue nationale, c'est filmé, on dirait que des fois, c'est
puis la rondelle, c'est quoi? On est au Centre Bell, c'était-tu Boston? La rondelle était sous le gardien.
Ouais. Exact. Une fois,
on était prêt de voir, mais vous aviez la technologie pour.
Mais c'est ça, puis je comprends que encore une fois, il y a des gens beaucoup plus intelligents que moi qui sont là pour qui justifieront pourquoi c'est pas arrivé encore. J'imagine qu'il y a une raison, mais c'est ça. Moi, je reviens à dire, la contestation me dérange pas, mais équipez mieux ceux qui prennent la décision, parce qu'après des fois, on dit ben oui, mais comment ils ont pas plus vu que nous. Fait qu'est-ce qu'ils peuvent décider, on sait pas.
Ouais, mais ils ont des écrans différents du côté de Toronto. À chaque fois, il y a des angles qui sont meilleur à Toronto. OK, on peut s'y voir nous aussi. Montrez-nous ça, s'il vous plaît. OK, on termine avec le morning skate. Il y a une conversation là-dessus. Est-ce qu'on doit maintenir les entraînements matinaux ou on doit enlever ça, Richard?
Je vois pas comment tu peux. Comment tu vas abolir ça?
C'est ta source de travail, le morning skate.
Oui, mais je sais pas comment tu peux abolir ça.
Richard, il aime ça en plus, les morning skates.
Ah, non, j'aime pas ça.
T'aimes pas ça? T'aimes pas ça?
C'est bien trop de bonheur.
Je suis d'accord.
C'est bien trop de bonheur. Mais tu peux pas les abolir parce que des joueurs. Tu sais, c'est Nick Crosby, il va tout le temps, là. C'est quoi, tu vas barrer l'aréna, tu lui donnes pas les clés, tu dis, écoute, excuse-moi, Sidney, tu peux pas venir patiner le matin. Tu peux pas faire ça. Il y a des joueurs qui insistent pour y aller. Tu peux pas faire ça.
On pourrait ne pas obliger tout le monde à être là. Si ceux qui veulent être là peuvent être là, c'était pas.
Ouais, mais je pense pas que la Ligue peut bannir ça. Il y a des équipes qui en font beaucoup moins que d'autres. Ouais. Je me souviens, entre autres, quand Michel Therrien était avec le coach canadien, là, des fois, là, on sautait pas mal d'entraînement.
Michel trouvait ça de bonheur aussi.
Surtout en Floride puis en Californie, j'avais remarqué que ça, souvent les entraînements sautaient. Mais je pense pas que la Ligue peut statuer quelque chose par rapport à ça. Les équipes, je pense que c'est vraiment plus du cas par cas. Les équipes peuvent choisir mais que la Ligue impose, là, en passant, vous n'avez pas le droit de présenter à l'aréna avant
16h. Pas le droit, mais on pourrait enlever l'obligation médiatique, peut-être, de dire, regarde, vous ne serez pas obligé de parler aux médias le matin. Si ça vous tente d'être ça de là, vous êtes ça de là.
Ben, il y a déjà beaucoup d'obligations comme ça qui existent, en passant. Il y a plein de clubs qui ne rendent pas disponibles les gardiens de but le matin d'un match.
Mais tu as quand même quelque chose, tu vas parler à quelqu'un un moment donné le matin, ça se
ben,
peut
des,
que...
Oh oui, oh oui, ouais. Généralement. Okay. Mais je pense pas que tu peux établir une règle à la hauteur de la Ligue en entier. Okay. Je pense pas que ça se fasse.
Steph, les entraînements matinales, le morning skate?
Bon, il y a beaucoup de joueurs qui détestent ça, mais c'est du cas par cas. Et puis moi, tout, je suis d'accord de pas abolir ça. Il y a des fois que, écoute, t'as eu un congé la veille. Donc, c'est le fun que tous les joueurs embarquent sur la patinoire, délier les muscles un peu. Et puis, la plupart des gardiens de but aiment ça. C'est juste pour, on dit, sentir la rondelle. Ça, c'est le fun là-dessus. Des fois, seulement tes extras, tes joueurs qui n'ont pas joué la veille ou les blessés, ça, c'est important. Mais de plus en plus, les entraîneurs le mettent optionnel. Et ça, là, ça fait l'affaire de ceux qui savent. Qui aiment ça, ils vont. Puis ceux qui aiment pas ça, ils vont pas. Mais de l'abolir, écoute, je pense que c'est allé loin un peu. Mais c'est de moins en moins pertinent, les fameux morning skate, comme c'était dans mes premières années dans la Ligue nationale. C'était tous les jours, c'était un morning skate. C'était un no-brainer. Et à cette heure, les coachs essayent de doser l'énergie beaucoup plus qu'avant. Et puis faire plus de vidéos que de glace. Des fois, c'est plus payant. Faire une petite séance vidéo que faire une demi-heure sur la glace. Donc, c'est au choix, mais de plus en plus, ça en vient optionnel et puis c'est une bonne affaire.
Je ne sais pas où vous étiez le 26 octobre 2023, mais dans la presse, sur la presse plus, il y avait un excellent dossier sur la perte de vitesse des entraînements optionnels dans la Ligue nationale de hockey.
Qui était de toi, je pense.
Peut-être.
On
n'a pas besoin d'aller là. On s'est intéressé à ça parce qu'il y avait de plus en plus d'équipes. Effectivement, c'est une tendance dans la Ligue à la baisse. Et on le voit, est à la baisse en cours de saison. Et même en début de saison, c'était les premières semaines du calendrier. Le Canadien avait commencé à avoir quasi systématiquement les entraînements optionnels les matins de match. Alors, vous savez-vous d'où ça sort, les entraînements optionnels? Dans les années 70, c'est les Flyers de Philadelphie dans les années 70 qui ont intégré ça, qui ont commencé cette pratique-là pour copier la sélection nationale soviétique. Et c'était pour sortir les gars du lit, carrément, dans les années 70, parce que les gars sortaient, les gars...
On voulait qu'ils se couchent plus tôt,
exactement, avec une alimentation que je décrirais comme différente, et que ce soit autant solide que liquide.
Une hydratation,
merci. Et c'était pour les sortir du lit pour que le matin, ils soient sharp à l'entraînement, pour pas qu'ils soient maganés de la veille.
C'était pour suer la bière.
Ce qui avait du sens dans la Ligue nationale des années 70, mais dans le sport professionnel de 2020, on en est moins là. Et dans un même reportage choc, encore une fois, dont je voudrais pas passer trop de temps là-dessus, je citais l'entraîneur-chef de l'Armada Blainville-Boisbriand, Mathieu Turcotte, qui a aboli les morning skates. Il n'y en a plus, à moins qu'un joueur ait un besoin particulier, parce que en faisant du tracking, où dans le fond, il avait mis des puces sur les joueurs et tout, il avait déterminé qu'un entraînement matinal, c'est l'équivalent d'un demi-match en énergie. Des fois. Donc, un joueur pourrait jouer un match
très
et demi.
Bon point.
C'est trop sur un volume de saison, un sport aussi difficile que le hockey avec aussi peu de repos entre les matchs. C'est une trop grosse charge de travail.
Il n'y a aucun autre sport. Moi, j'ai couvert beaucoup le football. Qui est aussi un sport de contact. Le football, il n'y a pas personne qui arrive au stade à 8h puis commence à courir des 40 mètres.
L'entraînement de la veille, souvent, c'est un walk-through.
Exactement. Les gars ne sont même pas en équipement. Ils sont juste en chandail. Puis
la semaine culmine, dans le fond, vers ce moment-là, que les joueurs soient le plus forts possible. C'est contre-instinctif, ça, ce qui arrive au hockey.
Ouais, Simon Olivier, t'as sorti un bon point, parce que les fameuses puces, Pierre Allard, qui était... Le gars du conditionnement avec le Canadien quand j'étais là, qui lui a introduit ça, les fameuses puces sur les joueurs pour mesurer l'intensité, que ce soit d'un match ou dans une pratique. Et quand, avec ses graphiques, il pouvait dire, bon, au coach, bon, aujourd'hui, de la pratique, le morning skate est peut-être de trop, parce qu'avec ses fameux calculs. Et puis, c'est un bon point, ça. Donc, de mesurer l'intensité puis l'effort puis le repos des joueurs avec ces fameuses puces-là. Donc ça, c'est beaucoup très avancé. Et l'autre chose de Simon Olivier qui était un très bon point, c'est des sorties du lit. Et puis, ça là, même si t'as pas de morning skate, juste le faire de faire une réunion vidéo. Les gars viennent à l'aréna, mangent premièrement, parce que moi, mes premières années avec les Blackhawks, les jeunes, là, ils arrivent à l'aréna, ça va pas manger, il n'y avait pas de déjeuner à l'aréna. Ça s'accrochait neuf McMuffin sur le pouce. Et puis c'était ça le déjeuner, c'était des athlètes d'élite, ça.
Des pop-tarts dans le grillage.
Des pop-tarts puis une toast, ils se faisaient une toast au beurre d'épinard, ouais. Rendu à l'aréna, c'est tout ce qu'on avait disponible.
Pas besoin d'autre chose.
Et puis, mais c'est ça. Mais ça, c'était des athlètes d'élite. D'ailleurs, c'est tout le monde à l'aréna le matin, tout le monde a un bon déjeuner à l'aréna. Et puis, souvent, mais on a le choix d'embarquer sa glace ou pas. Mais il faut que tu élèves du lit, puis il faut que les gars marchent.
Ouais, en série, il n'y a presque pas de ça, par exemple. Moi, entre autres, je me suis en finale l'année passée. Il n'y avait pas de monde avec skate.
Mais
les gars sont à l'aréna.
Ils sont à l'aréna.
Ils reçoivent les traitements.
Ouais, c'est ça. Ils sont
rendus à 100 matchs depuis le mois d'octobre.
Exact.
Ils commencent à magané un petit peu.
OK, les gars, on a fait notre boulot comme directeur général quand même.
On a tout réglé plein de choses.
Fatigué, on va aller manger, puis on va aller jouer au golf. On va s'arrêter là-dessus, puis au retour, on va se parler de cette lutte à finir entre Détroit, les Islanders et les Capitals de Washington. On est de retour au balado sortie de zone saison 5 épisode 46 avec Simon Olivier Lorange. Nous avons également Richard Labbé, Stéphane White. Les gars, lutte à finir entre Détroit, Islanders et Washington. Là, ce qui se passe présentement, Détroit 74 points, les Islanders 73, Washington 73, Washington. Mm-hmm. Attendez.
Qui c'est qui est devant le filet à Washington?
Oh, c'est ce que j'allais dire! Stéphane White, c'est Charlie Lindgren qui est là.
Ben oui, mon Charlie boy.
Écoute, 914 pourcentage d'efficacité, 2,61. Est-ce qu'on a manqué de patience avec Charlie Lindgren, Stéphane?
Oh, ça, c'est une bonne question.
C'est une bonne question, oui. Je pense que oui, parce que, écoute, encore une fois, c'est d'être là. Tu viens de le dire, la patience, surtout sur un gardien de but. Charlie, qui est rendu, je pense, à 29 ans, écoute, sa première bonne saison comme numéro 1 dans la Ligue nationale, mais tellement content pour lui parce que c'est un très vaillant, c'est un gars qui travaille tellement fort à tous les jours. J'ai adoré travailler avec Charlie Lindgren. Dis jamais un mot, pose pas de questions, embarque sa glace, travaille fort et ça paye. Ça
un
paye,
bon gars en plus.
Un mot juste ouais. De bon ouais.
Non, mais c'est une bonne chose que quelqu'un pose pas de questions, Stéphane.
Ben, c'est parce qu'il y a des gardiens de but qui se posent trop de questions. Pose-toi pas de questions, arrête les rondelles, là. Puis c'est la seule affaire que tu contrôles.
T'entends pas ça des fois? Je pense et trop.
Ouais,
combien de joueurs disent ça? Je pense trop.
Puis je dis pas pour poser de questions, parce qu'on est rendu à une époque où avec les jeunes, c'est rien que ça qu'ils ont en tête, des questions. Puis c'est correct que tout sont peut-être plus réveillés que l'ancienne garde. Mais Charlie, lui, c'était comme la vieille école. Moi, je travaille fort à tous les jours. Quand tu vas me dire d'aller dans le filet, je vais y aller. Sinon, mais... Et puis, il y a une belle surprise avec les Capitals.
OK, là, attendez. Fait que donc, on disait 74 Détroit, 73 Islanders, 73 Washington. Les Islanders ont perdu 5-2 contre les Rangers quand on aurait juste le balado. Là, ça s'est fait avant, je pense, dimanche. Ça s'est fait dimanche. Et le samedi et le dimanche également, Détroit a perdu 6-3 contre les Penguins de Pittsburgh. Qui de Détroit, Islanders, Washington va se classer selon vous? Alors, Richard?
Ouais, moi, j'ai mon argent sur les Islanders.
Oh,
ouais. Ouais, absolument.
Quatre défaites de suite pour Pitrick.
Ouais, mais là, ils devaient être meilleurs que ce
non,
qu'ils
non,
étaient.
Non, non, pas. Il y en a eu quatre.
Ils ont gagné, là.
Ils ont gagné, puis il y a une défaite, là.
Okay. Ils n'ont pas perdu contre les Sénateurs en prolongation et contre les Rangers le lendemain.
Voilà, c'est un point
sur quatre en fin de semaine.
Et voilà. Donc, c'est Pitrick.
Ben, je pense que ça va être eux autres parce que je pense que c'est eux la meilleure formation sur papier. Donc, devraient être là. Mais okay. J'ai fait une blague avec l'argent. Gagez pas là-dessus.
OK, parfait. Numéro 1, Simon Olivier.
Je choisis les Capitals parce que je trouve que c'est les seuls qui ont un semblant de momentum. J'ai lu une réflexion sur Twitter hier qui m'a beaucoup amusé, qui disait la raison pour laquelle il faut pas plus d'équipes d'insérie, c'est la course dans l'Est. La course dans l'Est est terrible. On dirait que personne veut les faire. Les Pingouins, il y a quelques jours encore, il y avait accès aux séries. Là, ils ont commencé à perdre des matchs. Les Devils avaient gagné contre les Stars. OK, cool. Avec Jake Allen, perdent contre les Golden Knights qui vont pas très bien. Les Islanders perdent ces matchs-là. Détroit est en déroute complète. Ils ont enfin mis fin à leur série de défaites, mais Détroit, c'est un peu le naturel qui revient au galop. C'est un peu comme s'il avait vécu à crédit pendant toute la saison. Puis là, tout à coup, c'était l'heure du paiement et ça se passe pas très bien. Et les Capitals, malgré qu'ils ont échangé Anthony Manta, Yoel Edmondson, qui sont débarrassés de Kuznetsov, ben ils réussissent à tenir la tête hors de l'eau. Et c'est eux qui sont le mieux positionnés avec le nombre de matchs joués. Ils ont deux matchs en main sur Détroit et un seul point de retard. Je trouve que ça pourrait être une belle histoire cette saison. Je les vois pas faire un long bout de chemin en série, mais présentement, je trouve que c'est les seuls qui ont l'air de savoir qu'on est dans une course aux séries.
Stéphane, Détroit, Islanders, Washington, qui passe?
Ben moi, je vois que les Islanders, moi aussi, pour une raison. Sorokin, le bon, meilleur gardien de but des trois équipes.
Il fallait qu'il nous parle d'un gardien. Ça, c'est
ben sûr. Oui, c'est sûr, c'est
standard. Évident.
J'adore, puis quelle saison de Charlie Lindgren. Mais quand même, si j'ai à gager là, ma maison entre Charlie Lindgren et puis Ilya Sorokin.
Non, non, on vient de le dire de ne pas faire ça.
C'est pas bon.
Ou ma cabane à chien.
Ça va être... pas plus.
Mais pour faire chien.
Non, je vais y aller avec Sorokin, avec les Islanders. À cause de Sorokin, Détroit, j'ai aucune confiance en les deux gardiens de but qui ont cassé depuis un mois. Ils ont littéralement cassé après avoir surpris tout le monde dans la ligue. Là, je parle de Reimer et d'Alex Lyon. Et puis, oubliez pas aussi, les Phillies sont en danger. Les Phillies. Les Flyers. Les Phillies.
Les gars de balle, Stéphane.
Les Flyers qui sont en danger. À 76, t'as deux équipes là, de la métro, le Washington et New York Islanders, qui peuvent dépasser les Flyers.
Mm. Bref, on verra qui va passer.
Ça va être le fun.
Entre Détroit, Washington et les Eagles de Philadelphie. OK, hey, je termine avec un petit sujet rapide. Doug Armstrong a été nommé directeur général d'équipe canadienne en vue des prochains Jeux olympiques qui seront en Italie. Est-ce que Martin Saint-Louis doit avoir une invitation pour faire partie du groupe d'entraîneurs? On a-tu besoin d'un leader comme ça?
Doit? T'as dit doit avoir.
Ben, est-ce qu'il doit? Selon toi, est-ce
qu'il doit avoir quelque
chose? Non, je comprends, Richard. Ah, OK, c'est assez sémantique, là. Je recommande. Okay. Selon toi, est-ce qu'il va recevoir l'invitation pour faire partie du groupe d'entraîneurs?
Non, je pense pas.
La réponse est non?
Non.
Ah.
Tu penses que oui?
Je pense que oui.
Okay. C'est pourquoi? Sur quelle base? Sur ça?
Ben écoute, c'est un grand leader.
Généralement,
il fait partie de l'équipe canadienne.
Ouais, mais généralement, on a tendance à aller chercher...
L'ami de l'ami?
Ouais, puis du monde qui ont déjà été là.
OK, parfait. Simon-Olivier?
Je serais bien surpris, honnêtement. En fait, je trouve que... J'aime mieux les chances que ça arrive que le mérite qui lui revient. Je vais le dire comme ça. C'est-à-dire que moi, je vois pas beaucoup basé sur quel accomplissement comme entraîneur-chef Martin Saint-Louis pourrait être invité, sachant tout le potentiel de d'entraîneurs qui peuvent être là. Cependant, ça devait être John Cooper qui était l'entraîneur-chef au jeu de excusez-moi, s'il vous plaît, Pékin.
Oui.
Et où les joueurs de la Ligue nationale sont pas allés.
Pas là, hein.
Cooper connaît bien Martin Saint-Louis, là. Un peu le diriger pendant quelques temps à Tampa. Ensuite, Saint-Louis a joué aux Jeux olympiques. Et là, celle-là, c'est un peu plus ésotérique. Là, mais tu sais, Saint-Louis, moi, souvent, je me demande si ce qu'il demande à ses joueurs, c'est pas trop compliqué pour les joueurs dits ordinaires. Je pense que Saint-Louis pense la game à un très haut niveau auquel peu de joueurs ont accès. Et tous les gars de cette formation-là auraient accès à ce niveau-là. Donc, ils parleraient... à mes yeux, le même langage. Mais après, est-ce que tout ça, c'est assez pour passer devant une assez longue liste d'entraîneurs qui risquent d'être considérés?
Kanechka va être considéré
pour toute sa vie. Je suis pas sûr que je le vois en 2026.
Mais j'aime beaucoup ce que tu dis, Simon-Olivier. Puis je pense que dans l'apprentissage individuel, on est en mesure de voir qu'il a fait la job avec Caulfield, il a fait la job avec Suzuki. Fait que donc, peut-être qu'on va être porté à dire, viens donc faire ça avec nos joueurs vedettes.
En tout cas, encore une fois, pour faire du millage là-dessus, sur quel accomplissement, par contre. T'sais, je sais pas si on irait chercher un gars...
Il connaît John Cooper?
Ouais.
C'est ça qu'il a dit, le monsieur?
Non? C'est ça qu'il a dit!
Mais après ça, ce serait un accomplissement de joueur.
Ben ouais,
c'est un peu bizarre, nommer un entraîneur olympique sur ses accomplissements de joueur.
Okay.
En tout cas.
Stéphane, t'as fait partie, toi, de l'équipe canadienne. Qu'est-ce que ça prend pour être appelé?
Ah, ça, faut que ça soit bon.
Bon.
Non?
Ah, on vient de régler ça.
En 2016, j'étais avec l'équipe du Canada. On a gagné la Coupe du Monde et notre coaching staff, les gars, c'était Mike Babcock, Claude Julien, Barry Trotz, Joel Canville et puis Pete Peters. Et puis.
Pas mal tout du monde qui ont gagné des coupes comme coach.
Exactement. Là où je veux en venir, c'est que ça peut être accompli quoi dans la ligue, d'après moi. Puis Martin, oui, les gars l'adorent, les joueurs l'adoraient, mais je pense que des Rick Tocchet, des Cassidy, même Jim Montgomery, pourquoi pas un André Tourigny qui a l'expérience avec l'équipe Canada l'année passée au championnat du monde.
Qui est très apprécié chez Hockey Canada par ailleurs.
Ouais.
Exactement. Et bien entendu, John Cooper. Donc, c'est beaucoup de monde, pour moi, qui, à l'instant, sont en avance de Martin Saint-Louis.
Bon, mais écoute, on vient de régler le dossier, ça n'a pas été trop long. Parlez-moi de ça, du travail bien fait. Ça complète le balado Sortie de zone de cette cinquième saison, épisode 46. Gros merci, Simon-Olivier et Laurent. Ça fait un plaisir encore une fois.
Merci à toi.
Merci, Richard Labbé. T'es un gros Richard.
Merci, Jérémy.
All right, on fait tirer des t-shirts. Et Stéphane White, toujours un plaisir. Merci, Stéphane.
Bonne semaine et on va se coucher un peu plus tard cette semaine.
Hein? Ouais, pas mal. Trop tard d'ailleurs. Trop tard. Ceci étant dit, merci Stéphane et nous, on se reparle vendredi prochain.